Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Radio TerraZen pour l'émission d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie. Je suis Olivier Ravaille et je vais interviewer Anne-Catherine ce soir pour vous sur une émission sur les rêves. Alors, nous avons reconduit l'émission sur les rêves d'il y a deux semaines parce qu'on avait suffisamment de matière par les rêves que nous ont envoyés les auditeurs. Et je vous annonce que la prochaine émission, qui sera toujours sur les rêves, est dans deux semaines, le mardi 20 octobre, même heure, 21h30, 22h30. Par ailleurs, Anne-Catherine donc anime son émission psychologie les premiers mardis de chaque mois sur notre antenne. Bonsoir Anne-Catherine.
Bonsoir Olivier.
Alors, je vous rappelle qu'Anne-Catherine est psychothérapeute à Fontenay. Donc elle reçoit en consultation individuelle, qu'elle est l'auteur d'un certain nombre de livres, une vingtaine, et notamment des petits manuels qui ont une vocation pratique, comme par exemple le petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy, également Triompher des manipulateurs, Triompher de la souffrance au travail, ou encore Libérez-vous par le pardon, qui sont quatre livres relativement récents. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions ou envoyer en direct des rêves que vous souhaitez être analysés ou commentés par Anne-Catherine sur le site www.radioterrazen, radioterrazen avec deux R, .net, tout attaché, dans la rubrique « Poser une question ». Ce soir, nous allons donc nous consacrer à l'analyse de rêves que nous ont envoyés certains de nos auditeurs. Mais peut-être avant de commencer, j'ajoute quelques questions d'actualité concernant Anne-Catherine, qui sera à une manifestation à laquelle j'ai eu la chance de participer l'an dernier, qui s'appelle les Journées du Pardon, fin octobre. Je n'ai plus les dates exactes en tête.
Du 28 au 1er novembre, 28 octobre au 1er novembre.
Voilà. Information que vous pouvez trouver sur le site d'Anne-Catherine, anne-catherine-sabas.com. Elle sera également en conférence le 21 octobre, qui est donc un mercredi, sur le thème « Travailler heureux dans une société en crise, pourquoi pas ?» C'est à Paris. Encore une fois, tous les détails sont sur son site. Alors, Anne-Catherine, je vous propose que, avant d'entrer dans dans l'analyse de rêve que nous ont envoyé certains auditeurs, de commencer sur des questions, que l'on se pose tous, puisque on rêve tous, même les gens qui disent je rêve pas, c'est probablement parce qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Est-ce qu'il existe des méthodes pour se rappeler de ses rêves?
Oui, alors les rêves se rappellent à nous, et plus nous y faisons attention, plus il va être facile de s'en souvenir. C'est un petit peu comme tout, hein. Plus vous vous intéressez à quelqu'un, plus il vous parle, plus vous vous intéressez à vous-même, plus vous vous comprenez, et plus vous avancez en bonne intelligence avec vous-même, et plus vous avez le désir sincère de faire équipe avec votre inconscient, qui est le grand pourvoyeur de rêves, plus vous allez pouvoir apprendre à déchiffrer son langage, qui par définition est indéchiffrable. L'inconscient fonctionne avec tellement de langages différents que ça s'apparente plutôt, à mon avis, au domaine de la poésie que de la logique. Et il s'agit d'apprendre à sentir, d'apprendre à se connecter, à entendre un petit peu la musique du rêve. Alors, comment faire? Comment faire? D'abord, le vouloir. Ça paraît peut-être bête de rappeler ça, mais notre attention a un pouvoir très, très important. Quand on se concentre sur un sujet, on est plus disposé à le comprendre et à l'entendre. Et la première chose, c'est bien sûr d'avoir l'intention ferme, d'essayer de se souvenir de ses rêves avant de s'endormir. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. À quoi les rêves peuvent nous servir. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que nos rêves sont des alliés. Sont des alliés, même si parfois ils nous semblent dérangeants. C'est le cas des cauchemars, par exemple. Les cauchemars sont d'ailleurs souvent nos meilleurs alliés, parce que ce sont ceux qui travaillent le plus en nous, en tout cas de la manière la plus frappante. Et si nous émettons l'intention de collaborer avec notre inconscient, vraiment, il va y avoir une attention qui va se faire. Donc, avant de vous endormir, souhaitez simplement déjà vous souvenir de vos rêves. Alors ensuite, il y a plein de petites techniques pour s'en souvenir, éventuellement noter. Certains se réveillent pendant la nuit, on n'a pas forcément besoin de se lever, d'aller allumer la lumière, prendre un cahier très joli, notre stylo plume préféré. Un petit carnet au pied du lit ou une feuille simplement, et quelques mots griffonnés peuvent faire l'affaire. L'idée étant de créer des espèces de réflexes qui, au réveil, vont permettre de se remémorer le reste. Après, il faut bien sûr un petit peu de patience. Certains ont beaucoup de mal à se rappeler de leurs rêves. C'est en général lié à plein de choses, à notre état de fatigue, à notre état psychique. Mais avec un petit peu d'attention, on y arrive assez facilement au fil du temps. Et puis, au réveil, pareil, pourquoi pas avoir un post-it sur son mur ou à côté de son réveil avec marqué « rêve hein, » qui nous permettra de prendre ce temps nécessaire. Le moment du réveil, c'est un temps où on est encore dans un état très proche du sommeil, donc où l'inconscient et le conscient peuvent bien communiquer. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'on se demande « mince, est-ce que je rêve? Est-ce que je suis déjà réveillée ?» On ne sait plus trop. On est dans cet état entre deux. Et là, les impressions fugitives peuvent être imprimées vraiment, à condition qu'on ait le temps pour le faire. Donc moi, ce que je suggère aussi, c'est mettez votre réveil 5 ou 10 minutes plus tôt, et puis ayez ce réflexe de mariner un petit peu dans cette eau de la nuit, là, pour en extirper, en fait, comme des poissons hein, que vous auriez pêchés et qui vont vous accompagner pendant la journée.
Donc on peut, par ces moyens mnémotechniques, améliorer le fait de se souvenir de ses rêves. Et est-ce que tout le monde rêve?
Alors oui, tout le monde est censé rêver, bien sûr. Évidemment, tout ça, c'est des suppositions. Hein. Il faudrait pouvoir disséquer le cerveau de chacun, j'en sais rien. Mais oui, on pense que tout le monde rêve. Sauf, alors peut-être, s'il y a des graves problèmes psychiatriques, enfin des lésions cérébrales, excusez-moi, des lésions cérébrales, qui peuvent peut-être endommager la possibilité de rêver. La difficulté, c'est plutôt de se souvenir de ses rêves. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on vit dans notre journée déjà, des impressions qu'on reçoit dont on n'a pas conscience et qui reviennent après sous forme d'impressions de déjà-vu. Le rêve, c'est encore plus frappant dans la mesure où on est censé être endormi, donc la conscience n'est pas la même. C'est pas qu'elle est une existence, elle est pas la même. C'est une conscience différente.
Tout à l'heure, vous parliez de cauchemars. Est-ce que finalement, il est naturel de faire des cauchemars? Parce que ce n'est pas très marrant de faire un cauchemar.
Alors, je pense que oui, c'est naturel, puisque notre cerveau le permet. Hein, c'est donc que la nature a créé ce qu'il fallait pour. Il y a des périodes où on fait plus de cauchemars que d'autres. Nos cauchemars peuvent être associés à plein de choses, peuvent être associés à des événements qu'on vit, hein, un état de stress, de peur, J'entends des gens qui me parlent de situations conflictuelles qui vivent dans le monde du travail, par exemple, qui créent des peurs, qui créent l'impression d'être agressé, en danger, etc. Et qui, ces peurs-là, peuvent se manifester pendant la nuit. Donc ça peut donner des périodes en fait où on a des rêves très agités. Il y a aussi des questions, des raisons physiologiques. Si on dort mal parce qu'on a trop mangé ou trop bu ou qu'on est malade ou qu'il fait trop froid ou trop chaud, etc., on peut avoir un cauchemar qui est en fait le résultat d'une impression physiologique. Là, c'est vraiment le corps qui parle. Et puis après, il y a des cauchemars, je pense que beaucoup le sont, qui sont thérapeutiques. En thérapie, il y a des moments où les patients amènent des cauchemars qui sont liés à des phases très très précises de leur évolution et souvent à des moments où ils sont en train de régler des choses. Le cauchemar vient pour attirer notre attention. Si vous rêvez que vous êtes sur une petite, je ne sais pas, dans une petite prairie tranquille, à vous balader avec quelqu'un que vous aimez, vous allez avoir une impression agréable au réveil, mais à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de renversant, ce n'est pas un souvenir qui va rester très longtemps. Si en revanche vous êtes sur la même prairie avec la même personne et que tout à coup un monstre horrible apparaît ou un orage ou une guerre se déclenche ou quelque chose comme ça, là évidemment vous allez plus vous en souvenir. Le système nerveux se souvient des choses traumatisantes. Alors ces rêves, ces cauchemars thérapeutiques sont en fait des prises de conscience qui nous sont proposées, qui sont souvent comme chaque fois qu'on rêve en langage symbolique. Et qui nous indique qu'il faut prendre conscience de quelque chose pour évidemment prendre les mesures nécessaires après. Donc souvent nos cauchemars sont des manières de nous réveiller, sans jeu de mots bien sûr, en tout cas d'attirer notre attention sur quelque chose. Et il arrive, si on n'a pas compris, que la chose se répète. Après, il y a aussi tout ce qui est lié à des traumas. Les gens qui ont vécu des choses très très difficiles et très brutales, hein, ce qui est le cas de tous les traumatismes, vont nuit après nuit, alors parfois c'est pas toutes les nuits heureusement pour eux, mais en tout cas régulièrement, revivre en rêve la scène traumatique. Et on s'aperçoit au fil de la thérapie, au fil du travail de digestion du traumatisme, que la scène devient de moins en moins chargée en émotions. Et petit à petit, je peux donner un exemple, par exemple, hein, quelqu'un, j'avais une patiente libanaise qui avait vécu les bombes juste à côté de sa maison. Et pendant longtemps, elle a rêvé de bombes, ensuite elle rêvait de paysages dévastés. Et puis, à mesure que son travail de guérison, de digestion et de resécurisation, si l'on peut dire, avançait, elle a pu, pendant ses rêves, se promener dans le village qui était le sien et qu'elle avait vraiment connu dans la réalité, où elle voyait des ruines, mais elle était en paix, elle était paisible et il n'y avait plus de peur. Elle avait vraiment digéré l'information.
Comme si le rêve jouait un peu un rôle comparable au fait de verbaliser les choses en thérapie ou ailleurs. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller en thérapie pour verbaliser. Et
Absolument.
comme si le rêve, voilà, était une forme d'expression qui valait bien la verbalisation, en quelque sorte.
Et d'ailleurs, nos rêves et les cauchemars en particulier nous indiquent, je parlais tout à l'heure de prise de conscience, nous indiquent les endroits parfois où nous avons refoulé trop hein, certaines choses. Je pense par exemple à un rêve qui peut nous dépeindre quelqu'un de notre entourage sous un jour nouveau. Hein, on croit qu'on s'entend bien avec quelqu'un, mais c'est bizarre, on se sent mal quand même en sa présence, mais la personne, on l'aime, on ne veut surtout pas la remettre en question. Et puis, on va rêver que cette personne se présente sous les traits de quelqu'un de très inquiétant. Et là, on va commencer à se demander, mais finalement, est-ce que j'ai pas peur de cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans cette relation? Et là, le rêve va être l'occasion de porter là encore à la conscience des émotions que cette personne ou cette relation nous a occasionnées, mais qui n'ont pas pu être conscientisées.
Alors, en vous écoutant, je me disais, au fait, la frontière entre ce qu'on appelle un rêve et un cauchemar, bon, évidemment, un cauchemar, c'est une forme de rêve, mais le cauchemar, il a quelque chose qui est très subjectif. Si on prend des émotions telles que joie, peur, colère, tristesse, quatre grandes émotions que tous les coachs, thérapeutes, etc. connaissent. Enfin, je veux dire, cette classification simple mais utile, tout le monde la connaît. C'est rare de faire un cauchemar de joie. Et le cauchemar est souvent associé à soit de la peur, soit de la colère, peut-être de la tristesse. Mais finalement, je me dis que le fait d'appeler cauchemar cette sorte de rêve-là, c'est aussi un peu probablement culturel, parce que on est souvent bien avec la joie. Alors c'est un peu générique ce que je dis, mais mieux qu'avec en tout cas la peur et la colère, qui pourtant sont des émotions qui sont aussi naturelles. Voilà, je me disais peut-être dans une civilisation en quelque sorte où toutes les émotions seraient également reconnues, alors le cauchemar est un mot qu'on n'emploierait pas finalement.
Tout à fait, et il suffit de voir les réactions de certains patients qui arrivent terrifiés parce qu'ils ont fait un cauchemar. Et au premier niveau, ils sont persuadés que c'est un mauvais signe. Parfois, on me dit, oh là là, non, ça va pas mieux, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, j'ai fait tel cauchemar. Et moi, ma réaction, alors je dis ça bien sûr avec des pincettes, parce que la personne sur le moment peut peut-être pas forcément l'entendre, mais je dis, mais non, au contraire, ce rêve, il est le signe que quelque chose en vous s'est reconnecté. Hein, qu'un souvenir qui était complètement enkysté quelque part, et donc qui était le signe d'une dissociation, ce souvenir est en train d'accéder à la conscience, vous êtes en train de vous recoller en quelque sorte. Et l'émotion, c'est comme une mouche qui serait dans une pièce, qui était dans un coin, hein, on l'entendait pas, on la voyait pas. Tout à coup, elle se met à voler, on n'entend que ça, on ne sait plus comment faire, et à un moment donné, elle va pouvoir sortir. Mais pour pouvoir sortir, il faut d'abord qu'elle vole. Vous allez entendre un gros bzzz, c'est très désagréable, et à un moment donné, elle va pouvoir s'échapper. Le cauchemar, les émotions qui sont contenues dans le cauchemar, c'est un petit peu de cet ordre.
En quelque sorte, quel que soit le contenu d'un rêve, qu'il soit cauchemar, de joie, de peur, de tristesse, ou un rêve joyeux, ou quel que soit son contenu, un rêve, en quelque sorte, est toujours bon pour pour l'organisme. J'ai l'impression, si à condition de savoir décrypter tout ou partie du message qu'il véhicule.
Alors, même pas. C'est-à-dire que, alors oui, il est toujours bon, vous avez complètement raison, un rêve est toujours bon, bien sûr. Déjà, il sort de nous et il a une fonction de régulation. Hein. Le rêve a une fonction de régulation. Mais même si on ne le comprend pas, alors ça peut être frustrant, bien sûr, pour l'intellect de ne pas réussir à comprendre certains rêves. Et il arrive qu'on se demande, mais qu'est-ce que là, l'inconscient veut bien dire ? On ne sait pas du tout. Mais le rêve, comme je le disais tout à l'heure, permet une reconnexion et on peut simplement l'utiliser en acceptant de l'expérimenter, si on peut dire, de le sentir. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais animé un groupe sur le thème des rêves avec Alain Héril, où nous avions proposé à des rêveurs, à des patients qui étaient présents, d'arriver avec un rêve et on leur avait proposé de mettre en scène une image frappante de leur rêve, c'est-à-dire de la jouer hein, comme au théâtre, mais d'une manière extrêmement statique, c'est-à-dire que la personne qui rêvait qu'elle était au bord d'un étang en train de pêcher, on lui avait demandé de prendre la position, comme si elle avait une canne à pêche, c'est-à-dire de se reconnecter à cette sensation, à cette chose qui a été vécue à un moment donné en rêve. Parce que cette image-là, cette expérience, est le condensé de plein de choses. Et c'est ça qu'on voulait aller rechercher. Qu'est-ce qui a été vécu par l'organisme à ce moment-là ? Et là, on tombait sur des choses formidables parce que dans l'image, qui parfois paraissait complètement anodine, mais elle n'était pas anodine puisque c'était telle personne qui l'avait rêvé et qui avait donc une vie bien particulière. Donc dans telle image était condensée une expérience de vie avec des choses bien sûr à dénouer. Donc même si on ne comprenait pas, simplement accepter de s'y connecter permettait d'aller ouvrir une porte.
Vous êtes avec nous sur Radio Terrazen. Nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour nous parler des rêves. Alors, Anne-Catherine, je vous propose de commenter, d'analyser un premier rêve qui nous a été envoyé. Alors, je le lis. C'est une dame qui nous a envoyé ce rêve. Je suis dans un avion, je ne sais pas s'il est en feu. Je suis un petit garçon enfant. C'est une dame, hein, dans la vraie vie. Le parachute sur le dos, je saute. À peine sauté, ma mère, qui a constaté que son parachute était déficient, se lance et s'accroche à mes pieds. Cela accélère ma chute dans une forêt vierge. Elle est vierge, de signe astrologique. Les arbres semblent très hauts et fins comme avec des pointes. Je suis soulagée de ne pas être morte dans la chute, mais je vois arriver un tigre sur le tronc qui mange un singe. Je ne suis pas loin de la scène, alors j'ai une seconde peur, la peur d'être mangée par le tigre. Voilà.
Une petite question, la dame précise qu'elle est vierge comme signe astrologique ?
Oui. À moins que... Ah, c'est peut-être qu'elle est vierge sexuellement parlant.
D'accord.
Ça, oui, j'ai un doute là-dessus.
Okay. Alors, les mères. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce rêve, comme chaque fois. Une chose qui m'interpelle, en fait, dans ce rêve, il y a deux choses. L'idée étant, bien sûr, de donner des pistes à la personne qui nous écoute, si elle nous écoute, mais aussi aux autres auditeurs. Il y a la question de la sexualité, hein, qui apparaît deux fois. La première... Je dirais même plus que deux fois, je m'explique. La première, la personne dit que dans son rêve, elle est un petit garçon, alors que dans la réalité, elle est une femme. Bon. Alors, quelle est la partie d'elle qui se sent un petit garçon ? Ça, c'est le premier travail que je proposerais à cette personne, c'est d'aller voir où elle en est dans sa féminité, dans sa place de femme. Elle dit donc qu'elle est vierge, on ne sait pas, il y a un mystère là-dessus, on ne sait pas si c'est son signe astrologique ou si elle est vierge. Peut-être que le petit garçon, ben, c'est le symbole de l'enfant justement qui n'a pas encore accédé à la sexualité. Moi, c'est la piste que je prendrais, en sachant là encore que je ne connais pas cette personne, qu'on a juste quelques lignes qu'elle nous a envoyées. Donc, ce ne sont que des suppositions. Ce qui me fait penser à ça aussi, c'est la question de la chute, hein, dans la sexualité féminine, et masculine aussi, mais plus particulièrement féminine, il est vraiment question d'abandon, de lâcher prise et d'accepter de tomber, en fait. D'accepter de... Voilà. Donc, moi, je me demande dans quelle mesure cette personne qui probablement, dans sa vie, a... ou une mère qui s'est raccrochée à elle, ou une mère qui a été souffrante, ou une mère qui n'a pas en tout cas pu jouer son rôle de modèle de femme sécurisante, dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose à guérir de l'image de la mère et donc de la femme, pour que cette femme puisse accéder à sa place de femme, sans être celle qui porte sa mère, sans être le petit garçon qui ne veut pas grandir, parce que peut-être... que la sexualité est dangereuse, et peut-être l'homme donc est dangereux. Hein. Il est question dans la deuxième partie du rêve d'une forêt, je crois, où des monstres arrivent. Alors bien sûr, on va se demander qui est le tigre, qui est le singe. Hein. Ça, c'est la question. On va se demander qu'est-ce que représentent ces animaux. Alors, ça peut représenter des personnes en particulier, ça peut représenter aussi des peurs. Hein. Le tigre, c'est une espèce de prédateur redoutable qui peut faire très peur. Le singe, il est rusé, on peut peut-être pas avoir confiance en lui. À qui ces personnes font penser la rêveuse ? Moi, mon idée, là, ça serait que cette dame a peut-être eu une maman qui a été trahie, abandonnée, maltraitée dans sa vie de femme, qu'elle s'est raccrochée à sa fille et que ça a privé sa fille de la possibilité d'accéder à une sexualité épanouie. Voilà ce que je dirais.
Mmh. Alors, je vais relire le rêve rapidement parce que je l'ai lu une fois et ce n'est pas évident pour les auditeurs de s'en souvenir directement. Je suis dans un avion, je suis un petit garçon enfant, je saute le parachute sur le dos et ma mère, dont le parachute est déficient, s'accroche à mes pieds. Elle tombe dans une forêt vierge avec des arbres comme des pointes. Elle n'est pas morte dans la chute et elle voit arriver un tigre sur le tronc qui mange un singe. J'ai une seconde peur d'être mangé. Est-ce que... comment dirais-je ? Il y a des symboles qui peuvent être d'interprétation courante, des symboles phalliques comme les arbres avec des pointes, le tigre qui est sur un tronc. Est-ce que il est bon en fait de voir du phallique partout dès qu'il y a quelque chose qui se dresse?
Alors, ça, c'est une question intéressante. Et vous voyez, ce qui est drôle là-dedans, c'est que j'ai fait une interprétation de ce rêve qui parle de la sexualité et j'avais complètement oublié qu'il y avait des troncs et donc des symboles phalliques. Je l'ai redécouvert en vous lisant. Ce qui veut dire que je me suis plutôt basée sur une ambiance générale et sur des choses qui se recoupent. Le petit garçon, donc peut-être une difficulté à accéder à la sexualité, la mère qui est en danger. Hein. Est-ce que dans la réalité, la mère de la personne enfin, qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-elle encore en vie? C'est des questions qu'il faudrait poser à la rêveuse. Pour répondre à votre question, souvent, oui, bien sûr, on va se demander un symbole phallique. À quoi ça renvoie, mais il peut arriver que ça parle d'autre chose. Je me souviens d'un, il n'y a pas très longtemps, d'un rêve d'un patient qui voyait devant sa fenêtre, en fait, il habite dans une ville où il y avait des travaux à cette époque, et en face de sa maison, ou pas très loin, il y avait une place, et de l'autre côté, il y avait la mairie. Et il y avait donc des travaux sur cette place. Et il a rêvé une nuit que les grues qui servaient aux travaux sur la place s'effondraient. Et en fait, ce monsieur était actuellement dans une phase où il avait été extrêmement blessé par des choses qu'il avait apprises concernant son père. Et son père, qui, entre parenthèses, avait eu dans sa jeunesse des occupations politiques, son père était brusquement descendu de son piédestal et il avait eu l'impression que la statue sur laquelle il avait mis, enfin, qui était son père en fait, avait été déboulonnée extrêmement violemment. Et en fait, cette grue représentait l'image idéale qu'il avait de son père qui tout à coup s'était cassé la figure. Alors, vous me direz, le père, le phallus, oui, bien sûr. Mais je pense que ça aurait pu être la mère aussi. C'est-à-dire qu'il était question là d'une image idéalisée qui s'écroule. Hein, quelque chose qui se dresse et qui s'écroule. Il y a des fois des rêves où, comme ça, une tour, c'est un symbole phallique, hein, où une tour s'effondre. La tour, elle peut représenter des projets, des rêves, des idéaux qui tout à coup s'écroulent. Et là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le symbole phallique.
Oui, et d'une manière plus générale, dans l'interprétation des rêves, on est en permanence aux prises avec deux tendances, hein, si je comprends bien. La première qui consiste à entendre absolument la personne pour savoir à quoi renvoie chacun des éléments de son rêve, qui est peut-être un petit peu trop spécifique, et l'autre tendance généralisante qui consiste à voir dans des symboles quelque chose de l'inconscient collectif où on a tous les mêmes. Je sais pas, l'araignée c'est la mère, la tour c'est le phallus, etc. Alors, ni l'un ni l'autre ne sont complètement vrais, et j'ai l'impression que là, en analysant, vous êtes, dans cette analyse que vous venez de faire, plutôt dans l'analyse de type spécifique, sans trop avoir en tête de grands symboles. C'est l'impression que
j'ai eue. Oui, tout à fait. Je crois, alors après, c'est une question aussi, il y a autant d'analyses de rêve qu'il y a de personnes qui vont se pencher sur le rêve, il y a autant de psychothérapie qu'il y a de psychothérapeutes. Moi, au fil du temps, à force d'analyser des rêves en direct, puisque à une époque, j'ai fait ça pendant longtemps aussi, j'aborde les rêves comme une espèce d'œuvre d'art et je me laisse imprégner par quelque chose qui est assez indéfinissable, en fait. Et parfois, c'est une espèce de musique, parfois c'est une espèce de rythme qu'il y a dans le rêve où on sent... C'est comme si on entendait le corps de la personne qui délivre un message et qui peut parler de symptômes physiques, qui peut parler d'un état général, d'un état de stress. Parfois, on va avoir des images qui reviennent et qui attirent l'attention. Parfois, c'est presque une odeur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'esprit du rêve avec lequel je vais essayer de rentrer en contact. Et c'est chaque fois à des niveaux différents. En fait, c'est presque une ambiance. Hein. On plonge dans une ambiance et petit à petit, des choses émergent.
Oui, il y a quelque chose de très intuitif dans cette manière d'aborder le rêve, l'analyse du rêve. Mais intuitif, ça veut dire aussi une certaine habitude de le faire. En vous écoutant, je me disais, mais alors, quid lorsqu'on analyse soi-même ses rêves? Bien sûr, on est le mieux placé pour pouvoir faire des associations, mais on est aussi le mieux placé pour avoir des aveuglements.
Mais oui, parce qu'on est le mieux placé pour savoir, par exemple, que le tigre représente notre voisin, notre grand-père ou
Pour
quelqu'un
soi,
qu'on
voilà.
déteste, ça c'est sûr, mais on est le moins bien placé pour comprendre de quelle névrose le rêve nous parle. Hein.
Oui.
Et c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, moi, quand je vais raconter mes rêves à mon psy ou à mon superviseur, il me le présente toujours sous un jour auquel je n'avais pas du tout pensé et qui s'avère d'une justesse phénoménale. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que je vais le voir.
Ouais. Et donc on peut utiliser ses rêves, on peut utiliser ses rêves tout seul, mais d'un autre côté, l'apport d'un professionnel sur le sujet donnera à coup sûr quelque chose auquel on n'a pas pensé, ou voilà.
Ben, disons que le professionnel, et c'est l'avantage bien sûr d'avoir une personne en chair et en os devant nous, en même temps, alors il se trouve que moi je suis habituée à l'écriture et à la lecture, donc quand j'entends la façon dont quelqu'un a rédigé son rêve, c'est comme si je l'entendais parler. Ce qui est important quand on raconte un rêve, c'est comment on le raconte. Et d'ailleurs, il y a des techniques de travail sur les rêves où on demande de raconter deux ou trois fois le rêve. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui émergent. Au départ, ça va être très factuel, et puis alors moi, ça m'arrive de s'entendre dire racontez-moi encore une deuxième fois cette partie-là. Et puis la personne, au départ, prend mot pour mot, et puis à un moment donné, elle se lâche, et il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et là, c'est la vraie émotion qui surgit. Et j'ai complètement oublié votre question, Olivier, excusez-moi.
Mais moi aussi.
Donc c'est bon, on est bien en phase avec l'inconscient. Donc il y a autant de façons d'analyser les rêves.
Oui,
Bon,
c'est
ben,
ça,
c'était
c'est
tout à
ça,
l'heure,
c'est
je ne
ça.
sais plus.
On était sur les deux paradigmes, le
Oui.
premier qui consiste à utiliser des recettes puisées dans l'inconscient
Voilà,
collectif, et le
j'y
deuxième qui
suis.
consiste à ne faire que du spécifique. Et je vous ai remarqué que vous étiez plutôt dans le spécifique et que vous n'utilisiez pas trop de ce qu'on pourrait appeler des grands symboles que tout le monde connaît.
En fait,
C'est pour ça que je vous ai parlé de symboles phalliques, l'arbre, les pointes, etc. Parce que probablement tout le monde fait ce genre d'association. Voilà.
moi, je n'ai pas envie de rajouter des théories de plus sur les rêves. Il en existe plein. Il y a des livres très intéressants qui ont été écrits depuis 10 ans. On me demande régulièrement, un de mes éditeurs en particulier, quand est-ce que je vais écrire un livre sur les rêves? Et je pense, plus ça va, plus je me dis que ça sera probablement jamais. Parce qu'un rêve, c'est un moment de la vie de quelqu'un. De la vie de quelqu'un qui a une vie, qui a des souffrances, qui a un chemin, qui a un parcours initiatique. Et ce rêve, il est important pour lui à ce moment-là, et c'est à lui qu'il doit servir. Voilà. Et donc, une analyse, entre guillemets, une analyse de rêve, c'est en fait une question qu'on se pose concernant une personne qui nous fait confiance à un moment donné, qui est en chemin, qui espère qu'on va pouvoir lui allumer une petite lumière quelque part, et c'est pour ça que ça a un sens.
Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission sur les rêves. Je vous rappelle son portable auquel vous pouvez la joindre, les psychothérapeutes à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, 06-08-94 81-46, 06-08-94 81-46. Vous pouvez retrouver les infos la concernant sur son site www.anne-catherine-sabas.com. Nous sommes à la moitié de cette émission, enfin un petit peu plus. Alors, moi j'ai une question, peut-être pas mal de personnes ont aussi, qu'on s'est tous posé un jour, en ayant fait ce qu'on pourrait appeler un rêve prémonitoire. Alors, est-ce que c'est prémonitoire, est-ce que ça ne l'est pas, etc. Donc, est-ce que les rêves peuvent prédire l'avenir?
Oui, les rêves peuvent prédire l'avenir. C'est ce que ça fait partie de ce que Jung appelait les grands rêves. Ces rêves qui nous mettent en contact avec quelque chose vraiment qui nous dépasse, le temps, les dieux, etc. Alors, il y a des rêves aussi qui sont prémonitoires parce qu'on les fait devenir prémonitoires. C'est-à-dire que si je rêve que je vais manger une glace à la fraise, et que c'est délicieux, je vais peut-être me dire demain en faisant mes courses, ah mais tiens, cette nuit, j'ai rêvé que je mangeais une glace à la fraise, c'était bon, si j'en achetais. Et je pourrais, en sortant du magasin avec mes glaces à la fraise que je m'apprête à mettre dans mon congélateur, dire, ah décidément, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai fait un rêve prémonitoire tout simplement parce que j'ai suivi ce que mon rêve me proposait et j'ai rendu la proposition du rêve réelle. Puis alors après, il y a des rêves très intéressants qui permettent de donner des réponses à des questions.
Alors, oui, c'est à cela que je pensais.
D'accord.
En fait, je pensais par exemple à des rêves de personnes comme Poincaré, qui était un grand mathématicien français de la fin du 19e siècle, qui a permis à Einstein d'écrire sa théorie de la relativité. En fait, c'est lui qui a créé les outils mathématiques pour ça. Et il se trouve que lui raconte à un certain moment comment est-ce qu'il est parvenu à résoudre des difficultés d'ordre mathématique, donc très abstraites, sur lesquelles il butait en rêve, c'est-à-dire de chercher, chercher, chercher longtemps, de en quelque sorte laisser tomber ou de laisser mariner, de rêver et de se réveiller le lendemain en se dépêchant d'aller griffonner ce qu'il avait rêvé, et c'était exactement ça. Et là, on est dans des mathématiques, c'est-à-dire quelque chose de très précis. Je pense aussi à Mozart qui raconte la même chose, que des compositions lui apparaissaient en rêve, ou à Tesla. Qui était un scientifique qui avait beaucoup travaillé sur l'énergie, qui rêvait de solutions qui marchaient. Et là, on n'est pas dans la poésie, là, on est dans ça marche ou ça marche pas. Et voilà.
Alors, justement, je vais me permettre de lire un petit texte à l'antenne. Je vais essayer d'ailleurs peut-être de le couper un petit peu. Certains auteurs se sont demandé, certains chercheurs se sont demandé, le rêve et en effet nos découvertes, nos créations sont-elles le résultat d'une logique implacable qui aurait était entraîné et qui, à un moment donné, déboucherait sur la résolution d'une équation, ou au contraire, le résultat de quelque chose de plus intuitif, de plus créatif. Je suis en train de lire un livre d'une dame qui a travaillé sur la pensée jungienne. Et donc ce livre s'appelle La prédiction de Jung, la métamorphose de la Terre. Et elle dit justement donc que certaines découvertes en science ont été faites lors d'un rêve ou d'une rêverie, ce qui rejoint
Ah,
ce que vous
bah
disiez sur
voilà.
Poincaré tout à l'heure. Donc je suis tombée là-dessus aujourd'hui, je me suis dit que ça tombait très très bien. Le pionnier des neurosciences, Otto Loewi, était persuadé très jeune que l'influx nerveux se transmettait de façon chimique, mais il ne pouvait le prouver. Jusqu'à ce que 17 ans plus tard, en 1920, il fit un rêve qui lui montra avec force détail l'expérimentation qui allait prouver sa découverte et lui valoir le prix Nobel de médecine en 1936. Pendant 17 ans, il a cherché comment prouver quelque chose dont il était sûr, et un jour, enfin, le rêve est apparu. Mais ce n'est pas tout. De plus, n'ayant pas été capable de déchiffrer ses notes prises en hâte au réveil, il refait le rêve une seconde fois la nuit suivante. Alors, ça, c'est vraiment chouette parce que le rêve est super sympa. Il se dit, oh là là, il a mal écrit pendant la nuit, on va avoir un petit peu de compassion pour lui, on va lui redonner l'info. Moi, ce que je vous suggère quand même, si la nuit vous vous réveillez, c'est d'écrire suffisamment distinctement parce que ça ne marche peut-être pas à tous les coups, cette histoire. Donc voilà, un autre exemple, Friedrich Kekulé, père de la chimie organique, découvre la théorie de la structure chimique des atomes au cours de deux rêves espacés dans le temps. D'ailleurs, Kekulé conclura au cours d'une conférence où il avait raconté sa découverte, Apprenez à rêver, gentlemen. Les exemples abondent, etc. Ce qui rejoint tout à fait la perspective de Carl Jung sur les rêves capables d'apporter des informations. Alors c'est là où c'est intéressant. Selon Jung, ce serait le soi, sujet de l'inconscient, qui puiserait dans sa vaste banque de données pour fournir des informations au moi. Le soi, pour Jung, est un petit peu le pont entre le moi et l'inconscient collectif, c'est-à-dire ce qui nous permet d'accéder, comme je disais tout à l'heure, à plus grand que nous et aller puiser des informations. Ce qui explique aussi, entre parenthèses, pourquoi plusieurs découvertes se font à peu près en même temps à des endroits différents de la planète. Comme si, à un moment donné, les infos contenues dans l'inconscient collectif on avait pu y accéder. Voilà, donc dans les rêves de guidance, le soi montre au rêveur un nouveau chemin d'évolution ou encore lui donne des clés pour accomplir son processus d'individuation. Une petite chose pour terminer. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans la plupart des cas impliquant des scientifiques, le rêve amenant la solution était précédé d'une longue période de recherche infructueuse selon le mode de pensée privilégié de la science, réflexion logique, rationnelle, mathématique, même si ce mode n'est jamais purement logique, mais contient des sauts intuitifs. Ainsi, là où des jours ou des semaines de travail scientifique n'avaient pu fournir la solution, L'inconscient, lui, pouvait faire émerger cette solution au conscient global et déjà déployée jusqu'à son terme. Ce qui m'amène à redire que le rêve peut, s'il est utilisé consciemment, là encore, peut nous permettre de trouver des réponses à nos questions. Moi, quand quelque chose me préoccupe trop et que je sens que j'y réfléchis sans trouver de solution, parce que quand on a bien fait le tour des données d'un problème et qu'on les tourne en boucle dans sa tête, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est d'augmenter notre niveau de stress. Mais c'est comme si on tournait de plus en plus vite dans une cage ronde et on voit de moins en moins la sortie. Et à un moment donné, il faut vraiment s'arrêter. Et là, on peut demander à notre rêve de nous aiguiller. Et même si notre rêve ne donne pas une réponse claire, il va pouvoir mettre quelque chose en mouvement en nous qui nous permettra de modifier la perception que nous avons de notre réalité. Il va amener une nouvelle perspective. Et évidemment, c'est en changeant notre perspective qu'on trouve la solution.
Dans le passage, à un moment, elle parle de saut intuitif. J'ai noté ça, c'est une jolie expression. Le saut intuitif qui me fait un peu penser à des brainstorming ou des sessions de créativité où on s'aperçoit, pour ceux qui l'ont déjà fait, que tout seul, on a tendance à tourner un peu en rond avec, si on a trois idées pour la résolution d'un problème, c'est difficile d'en trouver une quatrième. Et le fait de brainstormer librement, sans trop se mettre de contraintes, ça fait émerger des choses qui peuvent être fantastiques. Et du coup, l'inconscient dans le rêve agit un peu comme ça, par saut intuitif, comme si les déductions logiques chaînon après chaînon, c'était pas ça la solution, il fallait tout d'un coup aller chercher un peu plus loin, et sans que le conscient en soit capable, en quelque sorte. Alors, nous sommes avec Anne-Catherine Sabas dans son émission sur les rêves. Nous sommes aux deux tiers de cette émission. Je vous propose, Anne-Catherine, que l'on passe à un second rêve qui nous a été envoyé par un monsieur cette fois-ci, par un homme donc. Ce n'est pas un rêve précis, mais une question plus générale sur les identités inconnues dans les rêves. Bon, ça nous concerne tous, on a tous rêvé à un moment ou à un autre de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Alors, le monsieur dit « Je ne me souviens plus précisément du rêve global, mais à un moment, j'ai entendu une identité, Simon Lerat, L-E-R-A-T, j'ai entendu une identité, Simon Lerat, prononcée par personne. J'étais seul à ce moment, elle a été répétée peu de temps après, de manière très nette et bien articulée, ainsi que sur une mention manuscrite sur une feuille de papier, Simon Lerat, comme pour être sûr que je la retienne. Le personnage en question n'était pas dans le rêve, il était juste plus que clairement évoqué. Je ne connais bien sûr aucun Simon Lerat, pas même de Simon directement, ni de Lerat. Donc aucun rapport entre ce qu'il a rêvé et les gens qu'il connaît. Il a cherché dans Google, et il dit « J'ai trouvé un personnage historique, grand prieur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, suite des Templiers, précurseur de l'ordre de Malte, au XIVe siècle, dont je n'avais jamais entendu parler. Je crois que c'est la première fois que je rêve ainsi d'une identité inconnue, et je me demande quelle interprétation on peut en donner. » Donc le monsieur rêve d'un Simon Lerat dont il n'a jamais entendu parler, il l'entend, il le voit écrit, et ensuite ce personnage correspond à quelque chose sur Google.
Alors, la première chose qui me vient et qui, à mon avis, ne concerne pas du tout la personne qui a envoyé ce rêve, mais je vais quand même en parler parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Hein, la langue des oiseaux, c'est la façon dont on peut entendre une phrase, une proposition, un ensemble de mots de manière phonétique. Et moi, quand j'entends Simon Lerat, je me dis « si, point de suspension, mon Lerat » ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'un nom dans un rêve peut aussi vouloir dire quelque chose. Hein. Je me souviens d'un... Oh, c'était il y a longtemps un... Ah oui, voilà, c'est ça. Un de mes patients qui avait rêvé de quelqu'un qui s'appelait Alain, je crois, Briganda. Il ne connaissait pas de Briganda. Et en fait, il était question de quelqu'un qui avait été un brigand dans son arbre généalogique. Hein. Voilà. Donc là, le rat, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas que ça concerne le rêveur, mais c'est intéressant quand on entend un nom de le tourner sous toutes ses formes hein, pour voir ce qu'il dit à notre oreille et de quoi il parle. Ça, c'est une chose. Alors, il y a quelque chose qui me frappe là encore dans le rêve. Alors, c'est un peu l'intuition aussi. Il y a quelque chose pour moi qui cloche. Hein. Alors rassurez-vous, monsieur le rêveur, hein, c'est pas vous qui clochez, mais la façon dont vous racontez le rêve, il y a un mot qui peut-être me parle de quelque chose. Vous parlez d'identité inconnue. Ce dont vous parlez et ce que vous entendez dans le rêve, c'est pas une identité, c'est un nom. C'est un nom d'une personne. Hein. Donc moi, la première piste là qui me vient, c'est pour vous, il est question d'identité et il est peut-être question de trouver les ponts qu'il pourrait y avoir entre vous et ce Simon Lera, grand prieur du temple, je ne sais plus quoi,
De l'ordre de
de l'or.
Saint-Jean de
Voilà,
Jérusalem.
excusez-moi, je ne dis pas du tout ça pour dévaloriser. Je sais qu'il existe de nos jours des ordres des Templiers ou des choses comme ça, l'ordre de Malte hein, qui fait des très belles choses. Voilà, l'identité, hein, vous parlez d'identité. Il est possible que vous n'ayez pas entendu parler consciemment de ce Simon Lera. Quelqu'un qui serait branché réincarnation pourrait dire peut-être que vous avez été Simon Lera dans une autre vie. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, dans cette vie-là, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse pour l'instant, peut-être qu'il faut simplement aller lire des choses concernant ce monsieur, de vous imprégner hein, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Il y a peut-être des ponts à trouver entre son identité et la vôtre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous, qui ne s'est pas, qui ne s'est pas encore révélé, réveillé. Voilà, je vous laisse cette piste. Notre inconscient est en contact, en effet, avec toute la banque de données de l'histoire du monde entier. Avec des symboles, avec des archétypes, et même si consciemment vous n'avez pas entendu parler de Simon Lera, votre inconscient sait exactement qui est cet homme, en quoi il peut vous intéresser, quelle partie de sa vie peut vous correspondre, et simplement, moi je vous dirais, faites connaissance intérieurement avec l'existence de ce monsieur et voyez ce qui se passe.
Voilà. Donc votre interprétation, c'est que l'inconscient n'a pas pu lui envoyer ce nom-là par hasard, évidemment, et que c'est le Simon Leroy au sens tel que c'est écrit, hein, est quelqu'un que probablement ce monsieur connaît inconsciemment, c'est-à-dire qu'il fait partie de son environnement inconscient, en quelque sorte.
J'ai eu il y a quelque temps, j'ai une de mes patients, enfin j'ai plusieurs de mes patients qui viennent me voir pour parler presque exclusivement de leurs rêves. Alors évidemment, en parlant d'un rêve, on parle de la vie de la personne, mais on travaille avec ces matériaux-là à chaque séance. Et je me souviens à un moment donné de quelqu'un qui m'avait amené un rêve comme ça avec un nom de quelqu'un. Et la personne avait regardé aussi sur Google, c'est de la pratique Google, et avait découvert que cette personne, en fait, avait un métier très particulier. Et alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme si son rêve lui disait, tiens, ce que fait cette personne-là, c'est un truc qui pourrait t'intéresser, peut-être qu'il faudrait que tu te penches un peu là-dessus. Et en fait, cette femme a fait de ce métier un loisir, elle a eu une révélation. Au départ, elle ne comprenait pas du tout, c'était quelque chose de très bizarre, elle n'avait jamais fait ça. Et puis, comme par hasard, hein, les synchronicités, elle est tombée peu de temps après sur une petite annonce qui proposait des cours justement de ce truc-là. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, elle se disait, et c'est peut-être vrai, que peut-être qu'elle a lu quelque part dans un journal une publicité sur cette personne et sur son art. Le cerveau a enregistré ça et lui resserre dans un rêve, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, pardon, c'est que ce rêve lui parlait de quelque chose qui était contenu en germe en elle. Et c'est pour ça que la question de l'identité est importante. Toutes les personnes qui nous attirent, qui nous repoussent, qui nous fascinent, en tout cas toutes celles qui ne nous laissent pas indifférents, viennent faire écho à quelque chose que nous portons en nous.
Je vous entends parler d'identité, ce qui me fait penser aux différentes identités ou aux différents personnages que l'on rencontre dans nos rêves. Est-ce que on peut pas dire que nous sommes on peut être chaque personnage de nos rêves, d'une certaine
Oui,
manière.
tout à fait, tout à fait. Et même si on n'est pas nous-mêmes chaque personne de nos rêves, de notre rêve, la façon dont nous allons habiller, si on peut dire, quelqu'un dans notre rêve, imaginons que je rêve de mon voisin barbu, hein, je dis ce qui passe par la tête, et que dans mon rêve, ce voisin barbu est très timide. Ça peut vouloir dire que je suis très timide, mais ça peut vouloir dire aussi que je projette sur cette personne l'image ou de ma timidité, bien sûr, ou de ce que j'imagine de lui. Hein, c'est-à-dire que la façon dans la réalité dont nous voyons les gens est de toute façon subjective. Ça veut dire que toute notre réalité est un petit peu de nous, même déjà sans rêver. Je ne sais pas si je suis très claire.
Oui, c'est-à-dire que enfin, si je comprends bien, la manière dont nous faisons, alors nous c'est notre inconscient, mais enfin bon, dont nous faisons intervenir les personnages dans nos rêves sont déjà passés est déjà passé par notre filtre inconscient à
Absolument.
nous.
Et c'est très intéressant quand on observe l'évolution des rêves de quelqu'un, par exemple concernant sa relation avec sa mère, par exemple, où au départ la personne va dépeindre dans son rêve une mère qui, par exemple, est, je ne sais pas, très froide, très, très distante. Et puis à mesure que la personne elle-même est en travail de transformation, et qu'elle a digéré certaines choses, et que son positionnement change, l'image inconsciente qu'elle a de sa mère va changer. Et ça s'accompagne souvent d'un changement réel, hein, de la relation. Mais on ne sait jamais vraiment si c'est la mère qui a changé, ou si c'est l'image intérieure, de la mère, qui n'a rien à voir avec la mère réelle, qui a changé, et qui, du coup, va modifier le positionnement de la fille, qui fait changer la mère. Hein.
Quoi qu'il en soit, je reviens au texte que vous lisiez tout à l'heure du livre de Christine Hardy. En vous écoutant lire le passage, je me disais, au fait, il peut y avoir des conscients qui sont plus ou moins entraînés que d'autres, tout le monde n'est pas prix Nobel, mais en gros, nos inconscients sont tous aussi riches les uns que les autres, et si des inconscients peuvent produire des solutions qui donnent un prix Nobel, ça veut dire que, j'allais dire, le moindre de nos rêves est digne d'intérêt.
Absolument. Ça vaut le coup de faire attention ce soir quand vous allez vous coucher, à ce que vous allez rêver cette nuit.
Est-ce qu'un rêve qui raconte une longue histoire est plus intéressant qu'un rêve qui raconte une petite histoire très courte? Alors
Alors,
évidemment, j'induis un peu la réponse qui doit être non, mais enfin, bon.
il est plus intéressant, on va peut-être passer plus de temps dessus et encore, hein.
Enfin, il n'est pas forcément plus thérapeutique ou voilà.
Tout à fait, il y a des images frappantes dans les rêves, ça dure une image. D'ailleurs, le monsieur qui nous envoie son rêve concernant Simon Laura dit, je crois, je ne me souviens pas du rêve dans sa globalité, mais il y a ce nom qui revient. Hein. Et simplement ce nom peut déboucher sur des choses incroyables. Il suffit d'un mot, hein, d'un mot pour changer une vie, d'un mot pour amener un nouvel aiguillage dans une vie.
Et alors, je pense en vous écoutant, je me dis que finalement, voilà, certaines parties du rêve qui peuvent être très courtes peuvent être le doigt pointé vers la solution d'un problème, alors qu'un long récit nocturne dans un rêve peut être moins riche, thérapeutiquement parlant. Donc, c'est pas la longueur du rêve qui compte. Je pense à un certain nombre de comment dirais-je de clichés qu'on pourrait avoir, j'en ai une petite liste là, comme par exemple des rêves rêve de chute, rêve de perdre une dent, rêve de voler comme un oiseau, de conduire, etc. Est-ce que par exemple un rêve de chute, qui n'a pas rêvé un jour de chute, est-ce que même si on interprète spécifiquement le rêve de la personne qui rêve, est-ce que la chute en elle-même ne comporte pas un point commun chez tout le monde en quelque sorte? Donc là, je reviens un peu sur ce qu'on pourrait appeler les grands symboles.
Oui, bah, un rêve de chute parle de quelque chose ou de quelqu'un qui chute. Et on peut le voir à plusieurs niveaux. C'est pas forcément quelqu'un qui chute, en effet. Si je rêve que je tombe, c'est pas forcément moi qui tombe. C'est quelque chose en moi qui tombe, ou quelque chose à l'extérieur de moi, comme cette grue tout à l'heure qui se casse la figure dans le rêve que je vous racontais, et où l'image de quelqu'un est abîmée, est brisée. En fait, le piédestal est cassé. Il s'agit vraiment de quelque chose qui s'écroule, qui tombe, hein, et donc qui est en danger. Alors après, il y a plusieurs connotations. Là encore, comment la personne va le raconter ? Je rêve que je chute et c'est super. Je me retrouve sur un sol très agréable et très doux et je n'ai même pas mal. Ça sera autre chose que je suis à ma fenêtre et tout à coup quelqu'un me pousse et je tombe et je tombe et je sais que je vais m'écraser en bas. Hein, donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de la personne ? Qu'est-ce qu'elle a vécu? De quelle émotion, de quelle expérience, de quel engramme, de quel traumatisme ça parle?
Autrement dit, l'accroche quand quelqu'un raconte son rêve, c'est effectivement les mots. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un raconte son rêve, il le raconte déjà avec son vocabulaire
Absolument.
À lui, qui est un deuxième filtre, en quelque sorte. Il y a l'inconscient qui a généré un rêve, et ensuite la manière dont la personne le raconte, qui est un deuxième filtre. J'allais dire, quelqu'un qui rêve exactement de la même chose pourrait le raconter assez différemment. Et finalement, ça, c'est le récit que vous entendez dans votre cabinet. Ce n'est pas le rêve lui-même, c'est le récit que la personne
voilà,
en a fait.
C'est le récit, c'est en fait le couple rêve-rêveur. Et dans le cabinet, il n'y a pas que les mots qui sont employés. Il y a ce que la personne vit, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle ressent, la façon dont elle le raconte. Et tout ça, bien sûr, c'est le travail du psychothérapeute de décrypter tout ça. Et puis là, ce soir, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas une personne en chair et en os en face de nous, mais nous avons un texte. Et dans un texte, on lit aussi pas mal de choses.
Je pensais par exemple aussi à des rêves de conduite, de conduire un vélo, une voiture, un engin, etc. Alors, qui peuvent vouloir dire comment est-ce que je me dirige au sens large. Voilà, et puis on terminera là-dessus.
Oui, ce que je vous propose, c'est qu'on peut, par exemple, pour la prochaine émission, puisque, donc je le rappelle, dans 2 semaines, nous avons donc l'émission...
Le 20 octobre, voilà. Mardi 20 octobre, prochaine émission sur les rêves encore. Voilà.
Donc nous pouvons parler peut-être de certaines choses comme les rêves de conduite, etc.
Bien sûr. Et j'invite les auditeurs qui nous écoutent à envoyer leurs rêves pour cette prochaine émission. Donc je vous rappelle que vous pouvez le faire sur radioterrazen.net à la rubrique Poser une question. Je vous rappelle également qu'Anne-Catherine sera en conférence le 20 octobre. 21 octobre, pardon, le 20 octobre, c'est l'émission sur les rêves, et le lendemain, elle est en conférence à Paris, sur un thème qui est « Travailler heureux dans une société en crise, pourquoi pas ?» Eh oui. Tous les renseignements sont sur le site internet anne-catherine-sabas.com. Je vous rappelle son numéro 06 08 94 80 46, sur rendez-vous. Eh bien, Catherine, je vous propose que nous concluions cette émission.
Tout à fait.
Je vous remercie de votre de participation.
Vous me permettez de faire
bien sûr.
2 minutes, une minute de
bien
pub.
Sûr. Il nous reste 2 minutes dans tête.
Je serai avec un grand bonheur aux Journées du Pardon qui auront lieu du 20, en fait, c'est pas le 28, je crois, c'est le 29 octobre au 1er novembre dans un endroit magnifique au Val de Consolation. Des intervenants du monde entier vont venir parler du pardon, de comment aller mieux, de comment guérir son cœur, un grand moment. J'y proposerai une conférence sur le thème de guérir son rapport à soi-même pour contribuer à guérir le monde. Il sera question, en fait, tout simplement de pardon à soi-même. J'animerai aussi 2 ateliers sur place. Il y aura des choses magnifiques et il reste encore des places. J'ai appris ça aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller voir, prendre 2 minutes de votre vie. Je crois vraiment que c'est un bon investissement pour aller voir ce merveilleux site journeedupardon.fr et vous ne le regretterez pas. Voilà.
Oui, c'est une manifestation qui se tient dans un lieu qui est extraordinaire, niché dans la forêt vosgienne. Pour ceux qui aiment la nature, c'est paradisiaque. Et pendant les 3 jours, des rencontres humaines qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et vous propose de nous retrouver le 20 octobre, mardi, dans 2 semaines, à la même heure, 21h30, pour une nouvelle émission sur les rêves avec Anne-Catherine Sabas. Bonne soirée à tous.
Merci, bonne soirée.
Retrouvez prochainement cette émission en podcast sur www.radioterrazen.net.